Et dans deux minutes sur Equinox Radio avec Leslie, c'est parti pour Le Cercle, l'émission de référence de l'actu barcelonaise, spéciale politique française ce soir avec le député de la 5e circonscription des Français de l'étranger en interview, Arnaud Leroy, interview exclusive Equinox Radio, et les réactions de tous les leaders politiques, ça arrive juste après ça.
Merry Christmas. C'est déjà Noël chez Stop & Drive. Stop & Drive, la seule auto-école française de Barcelone, t'offre les frais d'inscription, passe ton code de la route et ton permis 100% en français à Barcelone, à 5 minutes de la gare de Sants. C'est plus simple.
C'est plus simple.
C'est plus rapide.
C'est plus rapide.
Et c'est moins cher qu'en France. Plus d'infos sur astopanddrive.com.
À Barcelone. À Barcelone. À Barcelone. Le produit français vous manque ? Une seule solution, une seule adresse. Chez vous, la seule boutique 100% produits français à Barcelone. Orangina, sirop de grenadine, beurre salé ou jambon de Paris, ça se trouve à la boutique chez vous. Chez vous. Chez vous, espace à réserver pour des fêtes privées. Chez vous, espace dégustation avec plat du jour sur place ou à emporter. Chez vous, rue de Girona 98 à Barcelone.
En plein cœur de Barcelone, la Air Boutique. Un lieu au top de la tendance avec coiffure, espace beauté, musique et ambiance lounge. La Hair Boutique, c'est Véronique, ancienne directrice artistique de TG Haircare d'Anthony Mascolo et responsable d'un salon Tony & Guy. Depuis 7 ans, la Hair Boutique coiffe, relook, embellit le Barcelone cosmopolite. La Hair Boutique, c'est place Aragonière 5 dans le gothique de Barcelone, juste derrière la mairie. Du mardi au samedi de 11h à 20h. Réservation 93 269 19 37.
Tu n'as pas de voiture à Barcelone? C'est pas un problème. Fais-toi un car sharing avec Avantcar. Aller chercher des meubles pour un déménagement ou aller chercher des amis à l'aéroport, Avantcar est la solution. Dispose d'une voiture louable à l'heure ou à la journée, à moins de 10 minutes de chez toi ou de ton travail. Avantcar, c'est à partir de 6€ de l'heure. Et inscris-toi sur le avantcar.es/Equinox et chope 45€ gratuite de location.
L'émission de référence de l'actu barcelonaise.
Le Cercle sur Equinox.
Là, jusqu'à 23h, c'est tous les responsables politiques et les leaders de l'opposition qui vont répondre à Arnaud Leroy sur Equinox Radio.
Oui, par ailleurs, nous devions avoir Fabien Santini, responsable Espagne des Verts, mais suite à un contretemps, l'interview n'a pas pu se faire.
Ça sera pour une prochaine fois pour les Verts. Alors, qui sera présent jusqu'à 23h sur Equinox Radio, Leslie?
Oui, on va avoir Sophia Lamsia, conseiller consulaire pour la liste de gauche Nouvelle Donne, Pascal Bourbon, conseiller consulaire et président de LIFE, François Rael Andreoli, responsable du Front de Gauche Espagne, Francis Sus, président Espagne de l'association UFE, Alain Lavarde, responsable du Front National Espagne, et pour terminer, Raphaël Chamba, vice-président du Conseil consulaire.
Et on commence avec Jean-François Berthe. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc Jean-François Berthe qui est le responsable UMP Espagne.
Jean-François Berthe, qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview d'Arnaud Leroy?
Ben écoutez, franchement, moi je suis resté sur ma faim parce que j'ai l'impression que c'était une interview pendant laquelle vous avez posé beaucoup de questions, mais en réalité on n'a pas entendu beaucoup de réponses. Voilà un peu le sentiment, je dirais, que j'ai éprouvé à écouter cet entretien.
On a parlé également un petit peu de politique fiction dans cet entretien, où on a demandé à Arnaud Leroy quel serait le candidat idéal de la droite pour 2017. Il a un petit peu clashé Laurence Saillez. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à Arnaud Leroy là-dessus?
Oui, donc là on parle effectivement des législatives 2017. Oui, il a apparemment, j'ai compris qu'il estimait que Laurence Saillez avait disparu du paysage. Il n'en est rien. Laurence n'est plus sur la circonscription actuellement, mais elle a toujours des responsabilités. Je dirais même qu'elle a des responsabilités encore plus importantes aujourd'hui, donc à l'UMP, puisqu'elle est membre du bureau politique et qu'à ce titre, elle est très très impliquée dans le quotidien de l'UMP. Donc elle n'est pas disparue des radars comme le prétend Arnaud.
Pour une législative 2017, est-ce qu'il y aura des primaires à l'UMP pour désigner le candidat sur la circonscription?
Mais écoutez, il est un peu tôt pour en parler puisque nous ne connaissons pas encore l'identité de notre futur président, puisque c'est ce week-end, comme vous le savez, que nous allons l'élire. Ensuite, il y aura de nouveau des élections donc dans les fédérations, y compris donc celles des Français de l'étranger. Moi, des entretiens que j'ai pu avoir avec les uns et les autres autres à Paris. Je pense que tout le monde a compris qu'aujourd'hui, il fallait introduire encore un peu plus de démocratie dans le fonctionnement du parti. Et on peut, en tout cas, espérer que n'importe lequel de ces trois candidats qui serait élu nous donnera donc effectivement la possibilité d'organiser une primaire à l'intérieur de notre circonscription.
Alors, en 2017, en cas d'alternance, qu'est-ce qu'un député UMP ferait différemment d'Arnaud Leroy au niveau local dans la circonscription ?
Ah ben écoutez, ça ne sera pas difficile parce que on le sait depuis longtemps, parce qu'Arnaud Leroy lui-même l'a dit et répété jusqu'à la satiété, qu'il n'était pas le VRP des Français de Catalogne ou d'Espagne. Il suffit de regarder ce que font aujourd'hui deux ou trois députés de l'opposition. Je peux vous en signaler deux, donc de l'UMP, que sont Thierry Mariani, donc sur la grande zone asiatique, et Frédéric Lefebvre sur la zone américaine. Ils sont pourtant beaucoup plus éloignés qu'Arnaud Leroy, donc dans leur circonscription. Et bien ces deux députés-là sont fréquemment sur le terrain et travaillent, je dirais, presque à temps plein pour défendre les intérêts de leurs électeurs. On peut dire la même chose de M. Meyer Habib, qui a été élu, donc lui, pour le compte de l'UDI, dans sa circonscription sur l'Italie, Israël et les autres pays limitrophes. Voilà ce qu'on attend d'Arnaud Leroy, c'est qu'il soit plus sur le terrain et qu'il s'occupe de la défense de nos intérêts, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Alors, pire même, puisque il lui arrive donc d'être d'accord avec l'opposition sur certaines mesures qui seraient au bénéfice des Français de l'étranger, et par solidarité gouvernementale, bien qu'il se prétend frondeur, il finit toujours par voter contre les intérêts des Français de l'étranger. Je vous donne un exemple très concret. Thierry Mariani donc a déposé un projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale pour étendre le vote électronique aux grands scrutins nationaux pour les Français de l'étranger. Arnaud Leroy, dans les couloirs, il dit qu'il est d'accord, que c'est une bonne mesure qui doit favoriser l'expression donc des Français de l'étranger. Et en réalité, au moment du vote, il a voté avec le gouvernement contre le projet de loi. Voilà ce qu'est Arnaud Leroy, voilà comment fonctionne Arnaud Leroy.
Alors, comme on le disait dans l'interview d'Arnaud Leroy, il a acquis une certaine notoriété dans la presse nationale, en France, on sait qu'il fréquente également le ministre Arnaud Bonnebourg. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose quand même pour la circonscription d'avoir un député qui a pris cette ampleur à Paris, ou pas du tout ?
Écoutez, c'est une ampleur qui est probablement très, très factice, parce que vous savez, c'est assez facile pour un jeune député de se déclarer frondeur. C'est une manière d'exister, puis d'afficher sa différence. Quand on est dans un grand parti comme le Parti Socialiste, où il y a beaucoup d'éléphants, pour prendre sa place, il s'est rangé derrière Arnaud Montebourg. Mais la réalité, c'est que quand on est au pied du mur, quand il faut voter, il rentre dans le rang, comme tout le monde, et d'une certaine manière, il se discrédite, puisque finalement, il s'aligne sur les diktats qui lui viennent donc des états-majors de son parti.
Merci Jean-François Berthe pour ses réactions à l'interview d'Arnaud Leroy.
Merci Jean-François Berthe.
Merci à vous.
Et bonne soirée.
Bonne soirée également, merci.
Au revoir.
Et la soirée continue sur Equinox Radio avec Sophia Lamsia au téléphone. Bonsoir Sophia.
Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Donc vous êtes conseiller consulaire de la liste de gauche Nouvelle Donne.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview d'Arnaud Leroy ?
Bon, globalement, concernant les conseillers consulaires, effectivement, nous sommes en train d'élaborer, en tout cas, depuis notre champ, on va dire, d'action, des méthodes de travail, n'est-ce pas, pour pouvoir effectivement faire le lien entre nos élus et les demandes qu'on peut diagnostiquer sur le terrain de nos compatriotes français.
Quelles sont vos relations avec Arnaud Leroy ? Est-ce que, par exemple, vous n'aviez pas soutenu la même liste au sénatorial ?
Oui, non, tout à fait. Donc ça, c'est une autre question concernant les sénatoriales. Nous avons décidé, les diverses forces de gauche, étant donné qu'on avait un socle commun en termes de transformation sociale et écologique, avec pour objectif effectivement de réduire les inégalités et d'accroître la justice sociale, nous avons décidé de former donc une autre liste avec les Verts, le Front de Gauche et Nouvelle Donne pour proposer une alternative à gauche durant ces élections sénatoriales. Donc ma relation avec Arnaud Leroy, du coup, pour les sénatoriales, certes, je dirais qu'on n'était pas dans le camp d'une certaine manière. Après, concernant le travail des conseillers consulaires, il est clair qu'il va falloir qu'on travaille ensemble.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez comme un soutien d'Arnaud Leroy, un soutien à sa politique aussi bien dans la circonscription que ce qu'il fait à l'Assemblée nationale?
Encore une fois, on a des besoins qui sont locaux. Lui, de ce que j'ai bien compris de son interview, il travaille plus à Paris pour, avoir plus d'impact ou mettre un peu plus de pression sur l'intérêt, concernant l'intérêt parmi les Français de l'étranger. Après, si vous parlez en général de la politique, si je suis d'accord avec la politique nationale qui est menée en France actuellement, je vous dirais que non.
Au niveau du conseil consulaire, il y a énormément de conseillers consulaires qui sont plutôt à droite ou plutôt centre-droit. Est-ce qu'à Nouvelle-Donne, vous arrivez quand même à faire entendre votre voix au sein du conseil consulaire?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on a surtout tous des visions assez sensées, on va dire, sur les questions qui nous touchent, que ce soit, on l'a vu d'ailleurs, lors des dernières commissions de bourse ou ce matin lors de la commission de l'action sociale. Je veux dire qu'on a quand même des points assez convergents. Ensuite, on verra par la suite, effectivement, dans l'avancée de nos fonctions, dans l'avancée de nos prérogatives, les différences idéologiques qu'on peut avoir sur certains points.
Alors, dans l'interview avec Arnaud Leroy, on a évoqué le thème de la Catalogne. On se rappelle, il y a 6 mois, sur Equinox Radio, il avait dit que la Catalogne indépendante sortirait de l'Europe. Ça avait quand même fait un petit émoi sur Twitter. Là, il a été plus mesuré, Arnaud Leroy. Cette fois-ci, vous, quelle est votre position par rapport à tout ça, l'indépendantisme de la Catalogne?
Alors, écoutez, depuis 2012, on va dire que la Catalogne a connu un processus de mobilisation, on va dire, de plus en plus intense en faveur de l'indépendance. D'ailleurs, le 9 novembre, on a bien vu que 1,8 million de Catalans sur un corps électoral de 5,4 se sont exprimés. Ça faisait à peu près un 80% des participants qui ont répondu oui aux deux questions. Les lectures, en fait, qu'on peut y faire, c'est la crispation des Catalans sur vraiment dans un contexte économique, je dirais, où on a un processus de paupérisation qui est préoccupant et qui s'est énormément cristallisé en Catalogne, plus peut-être Madrid qui n'était pas forcément aussi ouvert, on va dire, au dialogue avec la Catalogne. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans une situation à la fois, une détérioration de la situation économique et sociale, mais aussi d'une forte tension finalement politique entre le PP et le gouvernement basque.
Alors une double question, toujours par rapport à l'interview d'Arnaud Leroy. C'est toujours assez tendu, les relations d'Arnaud Leroy avec le Front de Gauche. Là, on parlait de la Catalogne. Il y a la montée de Podemos qui est assez proche du Front de Gauche. Donc vous, qu'est-ce que vous pensez du Front de Gauche par rapport à Arnaud Leroy? Est-ce que vous êtes un peu plus ouverte que lui face au Front de Gauche? Et qu'est-ce que vous pensez de la montée de Podemos en Espagne et en Catalogne?
Du rapprochement ou non du Front de Gauche, enfin, ça je pense que ce sera effectivement de voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Le but du jeu aujourd'hui est vraiment la priorité en fait qu'il y a en France, c'est vraiment la définition d'un projet, encore une fois, de transformation sociale et écologique dans le but de réduire les inégalités qui touchent la France actuellement. Du moment où on aura un socle commun qui permettra de construire ce projet commun, on pourra décider ou non de faire des alliances avec des partis politiques. Mais le but du jeu, c'est qu'il y a vraiment un besoin de redéfinir un projet et un besoin de travailler autrement pour l'élaboration justement de ce nouveau projet parmi celles et ceux qui refusent cette politique d'austérité que mène Duo, Hollande et Valls. Et concernant donc votre question, c'était sur Podemos. Podemos, disons qu'ils sont, ils sont dans le spectre politique espagnol. Ils ont hérité un peu des déçus de cette politique d'austérité qui a été aussi extrêmement sévère en Espagne. Donc ils arrivent peut-être avec un projet encore à peaufiner, notamment en termes peut-être économiques, mais ils restent de fait dans les sondages comme une force politique alternative au bipartidisme PP-PSOE.
Alors vous employez quand même, on en parlait avec Arnaud Leroy, mais vous employez le terme d'austérité à la fois pour la France et pour l'Espagne.
Ah oui, tout à fait. La France n'a pas été épargnée par cette politique d'austérité. Hollande et Valls maintiennent ce cap d'une politique économique d'austérité qui s'appuyait sur deux piliers principaux, qui est, en guise de rappel, les 41 milliards d'allègements de charges aux entreprises avec le fameux crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi, sans aucune contrepartie des créations d'emplois. soit mis en termes d'investissement, plus le deuxième pilier, c'était les 50 milliards d'économies budgétaires en 3 ans. Or aujourd'hui, dans les faits, si on fait un bilan, on a un gros dérapage des déficits publics, donc vraiment très loin de l'objectif de la loi des finances. Et ensuite, on a des indicateurs sociaux qui sont quand même assez alarmants, puisqu'ils sont dans le rouge. On a un pouvoir d'achat qui est en baisse, donc 1/5 des Français, il faut savoir, sont à découvert à la fin du mois, et ça tous les mois. Vous avez aussi une hausse des demandeurs d'emploi. Donc voilà, c'est pas un bilan, on va dire, très glorieux.
Merci pour cette analyse et pour ces réponses à l'interview d'Arnaud Leroy, Sophia Lamsia.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, merci.
Bonne soirée à vous, au revoir.
Au revoir.
Et on continue sur Equinox Radio, cette émission spéciale. Et au téléphone, on est avec Pascal Bourbon. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Oui, bonsoir Leslie, bonsoir Nico et bonsoir aux auditeurs d'Equinox Radio.
Pascal Bourbon qui est conseiller consulaire et président de LIFE. Alors, votre première réaction à cette interview d'Arnaud Leroy, Pascal Bourbon?
Écoutez, j'ai trouvé des choses assez intéressantes, hein, notamment sur ce que M. Leroy mentionnait sur l'entrepreneuriat. Hein, comme vous savez, c'est un sujet qui m'est très cher, et cette initiative au Portugal. Donc, il ne faut pas néanmoins oublier que l'écosystème de l'entrepreneuriat est spécifique à chaque région et à chaque pays. Donc, il ne faudrait pas systématiquement appliquer ce qui marche dans un pays et essayer de faire marcher dans un autre. En tout cas, cette réflexion, cette préoccupation sur l'entrepreneuriat me paraît tout à fait intéressante. D'autre part, j'ai noté donc un espèce de franc-parler. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Hein, notamment, j'ai relevé une de ces phrases, hein. il faut arrêter de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Donc ça, c'est plutôt de la politique, je dirais, plus réelle et moins dans le discours. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, mais au-delà de cela, il me manquait un petit peu des actions, hein. J'ai trouvé un discours, ma foi, assez ouvert, mais néanmoins très politique, et j'aurais voulu entendre de la bouche des députés plus de résultats et des actions concrètes dans le cadre de son mandat, et notamment auprès des Français d'étrangers.
Et on a posé la question à Arnaud Leroy pour savoir comment donc, il travaille avec le Conseil consulaire. Donc maintenant, on vous le demande à vous, comment le Conseil consulaire travaille avec le député Arnaud Leroy?
Écoutez, je vais vous annoncer quelque chose qui va peut-être vous surprendre et surprendre nos auditeurs. Je n'ai jamais rencontré Arnaud Leroy et je le regrette. Je regrette qu'il ne se soit pas rapproché des élus locaux. Son travail avec les conseils consulaires il est inexistant, hein, parce qu'en tant que conseiller consulaire, donc je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Je sais qu'il j'aurai sans doute lors d'une de ses prochaines visites. Et ce qui demande évidemment ce manque de contact avec les élus locaux que nous sommes, et quelle que soit leur famille politique, est un petit peu dérangeante et se traduit évidemment dans une mauvaise connaissance des problèmes locaux. Par exemple, on a bien vu qu'il avait une très mauvaise connaissance du problème catalan, par exemple.
Et une question pour terminer, quelle est l'actualité de LIFE?
Alors, et nous avons été donc élus en mai dernier sur une initiative totalement apolitique qui a séduit beaucoup d'électeurs, hein, parce que donc je vous rappelle, on a obtenu 21% des voix, et aujourd'hui je rencontre et mon équipe rencontre tous les jours des Français de la circonscription, aussi bien en Catalogne, en Aragon qu'au Baléares, et on établit des discussions, des réflexions sur qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce que ne sont pas capables de faire les partis politiques traditionnels, mais surtout orientés sur des actions et sur des idées nouvelles, hein, et non pas sur des discours politiques ou pire que ça, je dirais des guéguerres entre élus ou partisans d'un parti, qu'il soit de droite ou de gauche.
Très bien.
Donc nous sommes dedans l'écoute, dans l'action, à la rencontre. On a été très surpris, on continue d'être surpris, puisque les gens, les Français, la circonscription se rapprochent de nous et on vit qu'on fasse des choses, et c'est pour ça qu'ils nous ont élus, enfin qui m'ont élu dans ce cas particulier. C'est ce que j'essaye de faire, apporter une approche un petit peu pragmatique, nouvelle et un peu profonde et technique sur les dossiers lors des différents conseils consulaires auxquels j'ai participé avec mes collègues et notre président, donc le consul général, depuis le mois de juin.
Très bien, merci Pascal Bourbon pour cette réaction à l'interview d'Arnaud Leroy et cette actualité de Life. Merci d'avoir été sur Equinox Radio ce soir.
Merci beaucoup.
Bonsoir, à très bientôt.
Bonne soirée.
Au revoir.
Et sur Equinox Radio, on continue avec François Rall, André Oli. Bonsoir François.
Bonsoir.
Bonsoir Nico.
Donc vous êtes responsable du Front de Gauche en Espagne.
Qu'avez-vous pensé de l'interview d'Arnaud Leroy ?
Donc, je suis responsable du Front de Gauche et je suis membre de la direction du Parti de Gauche et conseiller consulaire de la deuxième circonscription. Je ne suis pas un commentateur, hein, je suis un élu de terrain, comme notre élu à Barcelone, Philippe Ogonowski. Je ne sais pas si vraiment on peut parler d'événements politiques quand on écoute notre député. Il a donc à nouveau des mots très aimables à notre égard. Je crois qu'il faut que le mot il faut décrypter que le mot populiste nous est adressé. Une fois qu'on élimine ces petites aspérités, nous ce qu'on peut évaluer plutôt que la personne est quelques propos qui ne me semblent pas très, très, très précis et pas très en phase avec les attentes de nos compatriotes ici en Espagne. Pour moi, il est relativement médiocre. Hein, Monsieur Leroy est absent de l'essentiel des grands rendez-vous de la circonscription. La réforme du redécoupage consulaire que nous avons fait, nous avons réussi à arrêter en faisant reculer le ministère des Affaires étrangères, en lançant une pétition dans l'ensemble de l'Espagne et des Canaries. La question des bourses scolaires, avec la réforme du mode de calcul qui est défavorable à nos compatriotes, le retrait de la France des établissements scolaires, qui est très net donc à Barcelone, avec la suppression de postes, le fait que la participation de la France au salaire des personnels fonctionnaires diminue. Donc tout ça, ce sont des charges supplémentaires pour nos compatriotes. Et puis, globalement, pour moi, c'est un bilan relativement inexistant. On nous dit que sur la question de l'emploi, on fait des tests au Portugal. Bon, c'est certainement très intéressant. Mais globalement, l'ensemble des engagements qu'avait pris le Parti Socialiste en 2012 vis-à-vis de nos électeurs, on comprend pas trop la position de Monsieur Leroy. Donc Monsieur Leroy, il aime la mer, donc son bateau suit un peu le vent. Après les résultats des élections municipales qui ont été donc terribles pour le Parti Socialiste, hein, pour la première fois depuis 1947, la gauche a perdu plus de 160 villes en France. Donc c'est une véritable débâcle et le résultat, ça a donc été la nomination de Monsieur Valls, qui poursuit des politiques très très dures de réduction budgétaire.
On a posé la question à Arnaud Leroy de savoir est-ce qu'un jour il va se réconcilier avec le Front de Gauche. Donc à l'inverse, on va vous poser la question, est-ce que dans le bilan d'Arnaud Leroy, vous trouvez quand même quelque chose de positif ou rien du tout ?
Le bilan, ce sont les choses qu'il a votées, on est bien d'accord. Tout ce qu'il a voté, nous sommes surpris, nous ne le voyons pas sur les grands combats. On s'est mobilisé, y compris avec ses troupes, contre le redécoupage consulaire, donc qui cachait en fait une disparition de la présence consulaire de la France en Espagne. On a eu des centaines de soutiens dans tout le pays, avec des gens qui montrent leur attachement à la présence de la France dans ce pays dont nous sommes le premier partenaire économique. Et moi, si vous voulez, ma déception elle commence le jour où Monsieur Leroy il vote le pacte de stabilité budgétaire. Il faut juger les gens sur leurs actes, pas sur leurs propos. Donc le TSCG, le pacte de stabilité budgétaire, c'est celui qui emprisonne la France, hein, celui que pourtant Monsieur Hollande avait dit qu'il renégocierait, qui capitule devant Madame Merkel et qui empêche la politique keynésienne de relance. Je trouve pas de terrain. D'ailleurs, on s'est retrouvé au sénatorial à défendre des listes différentes. La majorité des élus de gauche de la circonscription, qu'ils soient donc du Front de Gauche, d'Europe Écologie Les Verts ou de Nouvelle Donne, ont soutenu une liste sénatoriale alternative à celle que soutenait M. Leroy, qui était celle donc des sénateurs qui ont voté aussi l'ensemble des mesures de restrictions budgétaires du Parti Socialiste depuis qu'ils sont au gouvernement. Donc, Nous, on est prêt à travailler sur des dossiers concrets. Malheureusement, on voit pas. Bon, il nous envoie son attaché parlementaire qui est très charmant, mais nous, sur le terrain, on n'a pas présence, on ne note pas la présence donc d'un député engagé. J'ai vu qu'il soutenait la question de la fiscalité des Français de Andorre, mais je suis pas sûr que ce soit ça. La priorité en ce moment dans notre circonscription.
Une question sur le front de gauche. Jean-Luc Mélenchon en France a dit être impressionné de la réussite de Pablo Iglesias de Podemos. Il essaye d'ailleurs d'en s'en inspirer. Si on compare les sondages actuellement, Podemos ça explose. Le front de gauche c'est un petit peu plus calme. Vous qui êtes en Espagne, comment vous expliquez ça que Podemos a séduit alors que Jean-Luc Mélenchon un petit peu moins en France?
Moi ce que je vois c'est que le front de gauche a fait 17,5% à Madrid et 12,5% à Barcelone, donc c'est pas si mal. Alors après en France, justement, la question c'est que la crise n'a pas les mêmes effets terribles qu'en Espagne. C'est en partie d'ailleurs ça le pacte qu'a passé François Hollande avec Angela Merkel. C'est que les grandes économies du Nord survivent tant bien que mal au détriment d'une Europe du Sud qui est plongée dans la misère. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement soi-disant de gauche qui accepte que l'Espagne et la Grèce soient plongées. Vous savez qu'en Espagne, on a 28% de pauvreté infantile. Donc c'est quelque chose qui ne me laisse pas dormir tranquille. Donc poursuite, en France, le discours qui critique justement de façon radicale le système, c'est principalement un discours monopolisé par le Front National et il est très difficile de rentrer dans cet échiquier.
Justement, vous parliez du Front National. Suite à la montée de Podemos, il y a énormément, regardez ça ce week-end, énormément d'éditorialistes en Espagne, de tous journaux, de toute télé, qui comparent le programme économique de Podemos à celui du Front National, notamment avec une réticence à l'Union Européenne, une réticence aux États-Unis, un éloignement de Merkel, un discours un petit peu populiste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette comparaison qui est faite en Espagne entre le Front National et Podemos?
Les comparer, c'est un petit peu comme quand on disait que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont la même chose. Je pense que c'est commettre une faute politique assez grave. On a l'impression quand même que quand on suit Podemos, il s'agit de démocrates. C'est certainement un des partis qui a inventé une nouvelle forme, une forme d'organisation interne avec la possibilité de participer à quasiment toutes les décisions, avec des consultations en ligne en permanence de l'ensemble de leurs adhérents. Ils ont plus de 200 000 inscrits en quelques mois. On n'a pas l'impression qu'il s'agit d'un mouvement présidentialiste comme l'est celui de Marine Le Pen, avec des liens avec les groupes les plus extrémistes de ce qu'il peut y avoir en France, comme peut-être les milieux soraliens, dieudonistes ou autres skinhead. Donc je pense que les comparer, c'est commettre une erreur. Qu'il y ait une attente des citoyens européens d'une remise en cause de l'organisation de l'Europe d'aujourd'hui, ça je pense que c'est sûr que c'est vrai.
Très bien. Bah, merci François Rallet Andréoli d'avoir été sur Equinox Radio pour cette réaction à l'interview d'Arnaud Leroy.
Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Merci. Au revoir. À bientôt.
Et on continue avec Francis Huss au téléphone. Bonsoir Francis.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Donc vous êtes président de l'UFE Espagne. Et oui. qu'est-ce que vous avez pensé alors de l'interview d'Arnaud Leroy?
J'ai retenu qu'il confirmait qu'il faisait de la politique politicienne, c'est-à-dire qu'il soutenait le gouvernement dans toutes ses erreurs, et surtout sur le plan économique et sur les choix qu'il fait, et que Arnaud Leroy ne s'occupait pas beaucoup des Français de l'étranger, autrement que par parole. C'est-à-dire que je l'ai jamais rencontré, moi, ce qu'il dit, je l'ai jamais rencontré depuis la campagne électorale, ni à Madrid, ni à l'AFE à Paris, où pourtant je suis assidu. Il n'a pas pris d'initiative sur les divers thèmes qui intéressent les Français de l'étranger et qui ont mobilisé les sénateurs, qui eux ont déposé des amendements et sont intervenus très fréquemment, aussi bien pour l'approbation de la loi qui réforme l'Assemblée des Français de l'étranger, qui nous a quittés, retiré la plupart de nos possibilités d'intervention, loi contre laquelle l'ancienne Assemblée des Français de l'étranger était unanime, y compris la gauche et les sénateurs de gauche. Le roi l'a voté tranquillement. On pensait qu'il s'intéresserait davantage aux Français de l'étranger étant élu par eux.
Et Arnaud Leroy est un homme politique, donc vous qui faites partie d'une association qui n'est pas un parti politique, quelles sont vos relations de travail avec le député?
Eh bien, aucune. Aucune, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas. Depuis la campagne électorale, où il m'assestait un goût immodéré pour les voitures allemandes d'ailleurs, ça c'est anecdotique, il n'a Je ne l'ai pas rencontré, ni à Madrid, ni à Paris, à l'AFE.
Alors pour aller un peu plus loin, que la question de Leslie, c'est que, comme vous n'êtes pas un parti politique, quelles seraient les relations de travail que vous aimeriez avoir avec Arnaud Leroy? Comment vous aimeriez qu'il réagisse par rapport à l'UFE?
Je pense qu'un modèle excellent, c'est les sénateurs des Français de l'étranger qui vont visiter nos compatriotes dans tous leurs établissements, dans tous les pays du monde, et qui transmettent au gouvernement les propositions, les réclamations qu'on leur fait pour les transformer en amendements, tant sur le plan social que sur le plan fiscal, que sur le plan du découpage des circonscriptions, que les moyens qu'on met à la disposition des consulats. Les sénateurs sont vraiment présents, alors que les députés, de moins M. Leroy, n'a manifesté aucun intérêt pour nous.
Est-ce qu'en 2017, vous souhaitez que la circonscription reste en l'état, ou du coup, vous pensez que c'est un échec, cette nouvelle élection des députés de l'étranger? Est-ce que vous pensez que c'est trop par rapport aux sénateurs, justement?
Je pense que ça nous a beaucoup déçus. On attendait beaucoup plus cette élection des députés. On pensait que ça serait des gens plus proches de leurs électeurs. Je ne sais pas, une suggestion qui avait été faite d'ailleurs par le Parti Socialiste était qu'il soit élu à la proportionnelle sur l'ensemble du monde, c'est-à-dire qu'il soit représentatif de l'ensemble de l'électorat des Français d'étranger du monde, et non pas par des circonscriptions découpées, pas tellement la nôtre, mais certaines sont très artificielles. Quand il y a 49 pays dans une circonscription, de Mourmansk à la Nouvelle-Zélande, c'est évidemment difficile de représenter les Français de cette circonscription. Il vaut mieux représenter tous les Français de l'étranger.
Très bien. Un mot pour finir sur l'UFE en Espagne. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'actualité de l'association, c'est quoi?
Alors, les prochains rendez-vous, eh bien, nous avons justement la visite d'un sénateur, UDI, Olivier Cadic, qui a été élu sur une liste d'union de la droite et du centre, qui sera à Barcelone à la fin de cette semaine, et à Madrid lundi 1er décembre. Il vient donc à la rencontre des électeurs. On organise pour lui une rencontre. Nous avons également des événements du genre dîner de Noël, galette des rois. Du point de vue sportif, on a le tournoi de golf prochainement. Il est également prévu du bowling. Enfin, il y a des activités dans tous les sens, les activités ludiques, disons, mais également un très fort courant d'informations sur les problèmes qui concernent les droits des Français à l'étranger, en particulier en matière fiscale. On a des conférences en matière sociale sur les retraites et sur les remboursements des frais médicaux.
Merci Francisus d'avoir été sur Equinox Radio pour réagir à cette interview d'Arnaud Leroy et nous avoir parlé un petit peu de l'UFE.
Merci.
Merci.
Et ça continue sur Equinox Radio, cette fois-ci avec un représentant du Front National Espagne, Alain Lavard de téléphone. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Bonjour, bonsoir, pardon, oui.
Qu'avez-vous pensé de l'interview d'Arnaud Leroy?
J'ai connu Arnaud en 2012 là à Barcelone, quand on s'est tous présentés pour législative. Je pense que c'était un garçon sérieux, qui fait son travail, et donc j'ai rien à dire à ce sujet. Nous n'avons pas les mêmes idées politiques et surtout sur l'Algérie. Mais sinon, je pense que c'est un monsieur qui tient la route, qui fait ce qu'il devait faire. On verra jusqu'en 2017, après c'est autre chose.
Alors Alain Lavard, quand vous parlez de l'Algérie, vous parlez de l'Algérie française, parce que vous êtes pied noir en fait, c'est ça pour mettre dans le contexte.
Oui, je suis toujours en train de rabâcher la même chose, mais bon, avec lui, comme on a discuté quand on était à Barcelone sur ce sujet, et donc évidemment on n'est pas du même bord. Donc, mais sans problème, avec lui c'était agréable de parler. J'ai eu un bon contact avec lui. Je ne l'ai pas revu depuis parce que dans la région d'Alicante, on ne se déplace pas beaucoup, c'est loin à Madrid. Par exemple, demain, je dois aller à Madrid. Et pour moi, c'est beaucoup d'efforts d'aller à Madrid parce qu'on touche très, très peu de remboursements. Et donc, ce mois-ci, j'étais trois fois déjà, donc en tant que conseiller consulaire.
C'est-à-dire que vous dites du bien d'Arnaud Leroy, un député PS et un député UMP. Vous préférez un député PS sur la circonscription?
Non. Non, mais j'ai eu, c'est la personne que je parle. Hein, donc là, je ne mets pas les partis parce que j'aime pas mettre des partis pour les gens, pour nous qui habitons en Espagne. Personnellement, moi, ça fait 42 ans que j'habite en Espagne. Donc, vous voyez, on a, pour nous, l'Espagne, bon, c'est notre pays d'adoption, vraiment. On est vraiment. Et donc, je vois en tant que personne. Parce que je vois que même lui, d'après ce que j'ai compris dans son, dans l'interview, l'histoire des frondeurs, là, donc, je vois quand même, il se démarque un petit peu. C'est un gars moderne, un jeune. Donc, il voit les choses différentes. Pour l'UMP, non, l'UMP, j'ai pas de relation avec eux non plus. Nous, j'ai une relation avec personne. Alors, de toute façon, ça commence à aller mieux maintenant parce qu'on est 7 conseillers consulaires à Madrid. Au début, j'étais un petit peu éloigné. Puis là, doucement, doucement, comme je suis sympathique, j'arrive à avoir des bons contacts avec tout le monde.
On va y venir dans un instant à votre rôle de conseiller consulaire. Est-ce que le fait qu'Arnaud Montebourg soit Arnaud Leroy soit proche de Montebourg et que Montebourg soit un petit peu protectionniste, est-ce que c'est ça qui vous plaît dans le positionnement d'Arnaud Leroy?
Non, pas du tout. Non. Je suis vraiment. Je parle parce que Arnaud s'occupe des associations. Donc moi, je suis pas mal avec des associations d'aide aux gens. Donc il a eu un petit une petite enveloppe et cette enveloppe Arnaud la distribue aux associations. Bon, j'ai des contacts avec surtout les gens d'Alicante. Je parle hein, parce que bon, je suis dans ma région. Donc on a pas mal de problèmes avec des petits vieux qui ont des soucis, des anciens combattants, des jeunes qui n'arrivent pas. Maintenant, on a une l'employé du consulat honoraire qui a été mis dehors après 22 ans parce qu'il a compression de personnel. Vous voyez, donc lui, je pense que c'est un monsieur qui s'occupe de nous, qui, c'est vrai, il n'est pas indifférent il est dans ces actions-là.
Vous êtes conseiller consulaire à Madrid, il n'y a que deux seuls conseillers consulaires Front National au monde et vous en faites partie. Trois, apparemment, il y en a un de plus alors.
Il y en a un au Paraguay, il y en a un au Paris, même quatre. Il y en a un en Israël. Hein, ils sont pas l'étiquette FN, mais c'est des gars de nous. On est quatre.
À quoi est due, selon vous, votre élection à Madrid? Pourquoi les Français de Madrid ont voté pour le Front National?
Surtout à Alicante, hein, j'ai fait quand même 38%. J'étais en tête de tous les partis dans ma région. Donc, ça m'a permis d'avoir un petit 11% qui m'a fait et toujours pareil, sans argent, sans déplacement important, sans rien. Après, à Barcelone, j'ai pas pu faire une liste parce que mon tête de liste était décédé une semaine avant. Il a eu un infarctus. Enfin, j'étais pas mal. Et là, j'ai été élu parce que voilà, les gens m'aiment bien. Ça fait longtemps que je suis dans les associations et puis on a voté pour moi. Voilà. Bon. Donc, il y a eu un petit pourcentage qui m'a fait passer.
Est-ce que vous serez candidat aux législatives en 2017 sur la circonscription, Alain Lavarde?
Non, je passe la main.
C'est vrai? C'est fini?
Je passe la main.
Bon, bah rendez-vous.
Non, c'est fini. Je vais être trop vieux. J'ai déjà 68 ans, donc ça fera trop vieux. Bon. Je passe la main. J'ai déjà mon successeur, un jeune.
Ah,
déjà.
C'est qui? On a le nom?
Barcelone. On va attaquer Barcelone. C'est une région que j'adore. Et que on n'est pas bien placé. On va commencer à faire quelque chose là-bas.
Et comment donc, il s'appelle, votre successeur? Comment il s'appelle?
Je vous le dirai en temps utile.
Ah, d'accord. Ben, ah. Il est là, mais c'est le nom est secret. Bon, bah, bonne retraite en tout cas. La barre de jeunes retraités.
Oui, là, je reste mes 6 ans comme conseiller. Et puis là, voilà, mais il va s'occuper du FN aussi, ce garçon. Hein, donc, je vais au congrès vendredi, passer la main pour le FN. Et voilà, donc, je vais me consacrer totalement à mon conseiller consulaire qui me reste donc 5 ans et demi hein, maintenant. Donc, je réponds beaucoup de temps. Voilà, vous êtes en scoop.
Ben voilà, le scoop. On n'a pas le nom, on a un demi-scoop. Merci en tout cas, Alain Lavarde, d'avoir été sur Equinox Radio ce soir.
Merci.
Bonne soirée.
Merci, au revoir.
Au revoir, bonne soirée.
Et sur Equinox Radio, au téléphone, on est avec Raphaël Chambat. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Raphaël.
Alors vous...
Bonsoir à tous.
Raphaël, vous êtes vice-président du conseil consulaire, puisqu'on rappelle que le président, c'est le consul. Donc vous êtes vice-président du conseil consulaire à Barcelone.
Qu'avez-vous pensé de l'interview d'Arnaud Leroy?
Ce que j'ai pensé de l'interview d'Arnaud Leroy, écoutez, déjà merci de m'inviter. Je trouve que c'est intéressant de faire réagir le vice-président. Vous avez bien rappelé que le président et le consul et moi j'étais élu vice-président donc par les 6 autres conseillers suis, on a tous été élus au mois de mai dernier donc par les Français de la circonscription. L'interview de Monsieur Leroy, je suis ravi qu'il réagisse et qu'il s'intéresse aux Français de Barcelone et de la circonscription en général. Et puis voilà, bon, réaction de terrain, pas tellement, plus réaction au niveau national. Je trouve ça un peu dommage, même s'il dit bien qu'il est un élu de la nation. Voilà, en résumé, ce que je pourrais dire sur son interview en général.
Alors, on a posé la question à Arnaud Leroy de savoir comment il travaille avec le conseil consulaire. Donc, je vais vous poser la question à l'inverse. Vous, en tant que vice-président du conseil consulaire, comment vous travaillez avec Arnaud Leroy?
D'accord. Ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Arnaud Leroy lors de son interview, je trouve un peu dommage qu'ils disent quand je suis sollicité, je réponds. Nous, on aimerait, là je pense que je suis associé tous mes collègues, bon, tout ça, je le dis clairement, qu'un député qui dispose de plus de moyens que nous vienne à notre rencontre. Par rapport à ce qu'il dit qu'en fait qu'il faut attention aux étiquettes aux différentes étiquettes politiques, je trouve que c'est un bon message qu'il adresse. J'aimerais juste que dans les faits ça soit un peu vrai, on va dire, parce que bon, il le dit clairement, c'est une élection à connotation politique pour lui, donc il se sent plus proche de certains conseillers, et ça devrait pas être le cas, parce que c'est le député donc de tous les Français de la circonscription, et tous les conseillers devraient pouvoir travailler avec lui de la même façon. Nous d'ailleurs on le fait de cette façon à Barcelone, tous les partis politiques travaillent ensemble sans aucun problème, donc j'aimerais qu'on l'applique aussi avec notre député. Et il le fait remarquer d'ailleurs, c'est, je trouve aussi un peu dommage qu'il rencontre les conseillers AFE et que les conseillers AFE, pas les conseillers consulaires, à Paris, alors que c'est le député de la circonscription. Donc pourquoi devoir rencontrer quelques conseillers consulaires à Paris lors d'une sélection extraordinaire au lieu de rencontrer tous les conseillers consulaires de sa circonscription?
Alors on parlait avec Arnaud Leroy éventuellement d'un changement de circonscription hein, où la circonscription pourrait encore s'agrandir en 2017. Est-ce que vous, ça vous fait peur si c'est une circonscription encore plus élargie?
Au niveau de la circonscription des législatives?
Oui.
Écoutez, comme je l'ai dit plusieurs fois à votre antenne, et je pense que je vais le répéter, moi je suis pas aussi bien au courant de ce que prépare Monsieur Hollande concernant les circonscriptions. Là c'est vrai que dernièrement il fait là c'est plus à titre personnel, on va dire, que je m'exprime, il fait un micmac quand même assez impressionnant, un micmac électoral concernant la circonscription. J'espère juste qu'il va pas toucher à celle des Français d'étrangers. Je pense que la nôtre a une taille assez humaine encore. Justement, ça pourrait permettre à son député de se déplacer dans tous les coins de la circonscription. Et si on l'agrandit, je trouverais vraiment ça dommage. Donc espérons qu'elle reste comme ça. Et ensuite, moi, je n'ai pas plus d'informations à ce sujet, mais j'espère vraiment qu'elle va rester. Donc Espagne, Andorre, Portugal et Monaco.
Raphaël Chambat, on a fait un petit peu de politique fiction avec le député Arnaud Leroy en imaginant le candidat idéal de la droite en 2017. Vous avez été cité hein, dans notre liste. Est-ce que vous avez une réaction là-dessus?
D'accord. Là, c'est vraiment plus en tant que vice-président du conseil consulaire que je peux réagir. Là, ça sera vraiment plus à titre personnel. Demander aux députés socialistes, quel est le meilleur candidat de la droite, c'est vrai que je comprends qu'il n'est pas vraiment apporté de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est un peu tôt pour décider et que, voilà, pour ma part, le moment venu, je serai là, donc on verra.
Et en qualité de vice-président du conseil consulaire, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce qui se passe lors de ce conseil consulaire depuis l'élection et qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir?
D'accord, très bien. Mais écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les partis, tous les conseillers consulaires, donc petits conseillers consulaires travaillent ensemble. On va rencontrer les Français. On est en train de préparer, de faire remonter en tout cas les besoins des Français auprès du consulat. Il y a beaucoup de travail. Un sujet qui a été abordé par M. Leroy que je trouve intéressant et je peux le féliciter pour ça, c'est l'emploi. C'est vrai que particulièrement Barcelone, la circonscription en général est touchée par ce problème de l'emploi et de la précarité. Et justement, le conseil consulaire est en train de travailler à maximiser tous les services emploi qui sont offerts à notre communauté. Donc ça, c'est vraiment un exemple concret pour lequel les conseillers consulaires travaillent au quotidien pour la communauté, on va dire.
Très bien. Merci Raphaël Chambat, vice-président du conseil consulaire, d'avoir été sur Equinox Radio pour réagir à cette interview d'Arnaud Leroy.
Merci.
Ce que je voulais juste dire par rapport à M. Leroy, là c'est vraiment encore à titre personnel. Oui. Je trouve trouve un peu étonnant qu'il soit content d'une réaction d'un collaborateur socialiste de Paris. Ce que j'aimerais, c'est qu'il s'intéresse plutôt à la vie qu'ont les Français de la circonscription. Malheureusement, ils n'en pensent pas grand-chose pour l'instant. Donc, je l'invite à se rendre plus souvent à Barcelone et dans la circonscription en général.
Dit Raphaël Chambat pour cette réaction.
Merci à vous. À très bientôt.
Bonne journée. Merci, au revoir.
Voilà, fin de cette soirée spéciale sur Equinox Radio avec le député Arnaud Leroy et toutes les réactions, vous allez retrouver en podcast. Podcasteuse en chef, toujours Leslie.
Et oui, ça ne change pas.
Equinoxmagazine.fr, l'interview du député plus les 8 interviews, vous allez les retrouver en audio. Et puis les meilleurs moments également, ça va être Leslie qui va extraire les meilleurs passages. On va faire un petit compte rendu que vous allez donc retrouver sur Equinoxmagazine.fr. Et là, juste avant de refermer ce cercle spécial, on n'oublie pas ton mythique agenda, Leslie, hein, parce que les gens vont continuer à sortir pendant toute la semaine. Que faire à Barcelone? C'est parti.
Eh bien, en premier, il faut aller Plaça Real parce que la Fondation Septa retrace l'histoire de Sidecar, un des clubs emblématiques de Barcelone qui est situé sur la place. Donc l'expo s'appelle De la Vanguardia al Sidecar. Donc on y découvre les concerts et tous les personnages mythiques qui ont fréquenté ce lieu. Et donc c'est jusqu'au 31 janvier 2015 pour en apprendre un peu plus sur cette histoire des noctambules.
Et toi, tu es voisine hein, puisque tu habites sur la Plaça Real.
Exactement.
Dans une petite rue derrière. Et samedi soir, on est sorti avec toi et tu nous as raconté les décorations de Noël de la Plaça Real. Et comme c'est l'agenda culture, j'aimerais bien que tu nous refasses la petite description que tu as fait. Alors, comment sont les lumières de Noël sur la Plaça Real de Barcelone, Leslie?
Alors, donc il y a des lumières qui font comme un espèce de faux ciel sur la Plaça Real, le multicolore.
Et les tubes, voilà. Tu avais parlé de tubes aussi, non?
Oui, mais ce sont des tubes lumineux voilà, qui partent. Je ne connais pas bien le vocabulaire de Noël, mais...
Voilà, donc c'est quelqu'un qui parle français de l'Amérique qui nous écoute. Sachez qu'ils ont mis des tubes en forme de ciel pour faire les décorations de Noël sur la Plaça Real. Voilà, c'est la description de Leslie. Deuxième bon plan là dans l'agenda culture.
C'est le festival de vidéos d'auteurs qui revient pour sa 9e édition à Barcelone, donc jusqu'au 30 novembre. Tout le monde pourra profiter d'un riche programme de vidéos et de projections artistiques. Donc l'événement se déroule au Centre d'Art Santa Monica, situé donc sur la Rambla, pas loin de la Plaça Real.
Un excellent musée qui est gratuit tout le temps d'ailleurs, hein, le Santa Monica. On le
Exactement,
voit pas, il est
oui.
tout discret et c'est bien que tu l'aies mis dans ton
Son
agenda.
Numéro 7, oui.
Pour moi, c'est un des meilleurs musées de la ville. Un des moins connus, mais un des meilleurs.
Et enfin, pour terminer l'agenda, c'est à l'Institut français ce mercredi à 18h30 la diffusion d'un très beau documentaire Girl Raising de Richard Grobins qui relate l'histoire de 9 jeunes filles qui vivent dans 9 pays différents, donc comme le Pérou ou l'Afghanistan, et donc toutes font face à des injustices telles que l'esclavage ou le mariage forcé. Et donc le documentaire met en lumière cette situation et l'entrée est libre.
Merci Leslie pour cet agenda qu'on va retrouver sur l'Equinoxmagazine.fr également avec tous les liens, les téléphones, la photo qui va avec l'image mythique de cet agenda. On se retrouve la semaine prochaine pour le cercle bien chargé encore. On va avoir deux invités. On va avoir le président de la Chambre du commerce de Barcelone pour nous parler un petit peu de l'actualité commerciale, de ce qui se passe avec les entreprises en cette période de Noël et tout. Pas mal d'événements du côté de la Chambre du commerce. Et on va avoir également Jaume Clotet, qui est un Catalan, qui est le chef de presse de la Conselleria des Affaires étrangères de la Generalitat. Voilà, j'ai bien résumé.
Et en plus de ça, il vient d'écrire un livre.
Donc présente-nous un petit peu le livre. Là, tu vas l'interviewer pour son livre en fait. Hein. Tu vas pas l'interviewer pour son rôle à la Generalitat.
Voilà, ce qu'il écrit plusieurs livres donc sur l'histoire de Catalogne. Il en a sorti un dernier qui vulgarise un petit peu l'histoire de Catalogne en détail.
Voilà, vulgarise parce qu'il s'adresse aux enfants en fait, pour que les enfants puissent comprendre le catalan. Et pour des gens comme toi, Leslie, qui sont de grands enfants, qui ont un petit peu de mal avec le catalan, ça te permet de renforcer ton apprentissage du catalan.
Tout à fait, oui.
Parce que d'ici lundi, pour interviewer Jean-Marc Le Tête, t'as un livre en catalan. À lire.
Exactement.
Tous les soirs, là, avec.
J'apprends le catalan une semaine.
Ouais, avec la bouillotte dans le lit, la bougie et le livre en catalan, Leslie. Bon, bah voilà, tout ça, ça sera la semaine prochaine dans le cercle. On se retrouvera également entre-temps mercredi soir avec Cham pour l'apéro, la grosse libre antenne des Français de Barcelone et le son en non-stop sur Equinox Radio. C'est parti maintenant. Des bisous, Leslie.
Des bisous, ciao.
Ciao.